France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est l'un des plus grands maîtres de la musique baroque ancienne, mais pas seulement. Un gambiste qui a suscité une vocation chez beaucoup de musiciens qui viennent ici le matin et qui en parlent. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce matin en direct, il a zigzagué entre les voitures, le maestro Jordi Savall. Bon dia, hola.
Bon dia, bonjour, merci.
De passage en France, hier soir vous étiez Jordi Savall, salle Gavou à Paris. Ce soir vous serez en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, à Lamballe pour un concert intitulé La Viole Celtique. Et puis on vous retrouvera plus tard, on en reparlera tout à l'heure jusqu'à 9h, dans nos contrées au printemps. Je dois vous avouer une chose, Jordi Savall, quand j'ai vu toutes ces nouveautés discographiques avec le Concert des Nations, avec la Chapelle Royale de Catalogne, j'ai un peu pris peur. La toute dernière nouveauté, c'est le Messide de Handel. C'est très beau, hein, mais il y a aussi la récente Judith, Juditha Triomphans, l'oratorio de Vivaldi, puis une passion selon Saint-Marc de Bach, on va y revenir tout à l'heure. L'an dernier, il y avait aussi la musique péruvienne, Bailar Cantando. Vous vous y retrouvez dans tous ces projets?
Mais chaque projet correspond à un moment concret, dont le Messie s'était fait en décembre 2017.
Qui sort juste là?
Qui sort là, parce que là c'était trop tard pour le sortir l'année passée, et dont le sort maintenant parce qu'il n'est pas actuel. Le Judith Triomphans, on l'a fait l'année passée, et dont le sort maintenant. Je pense que ma politique, disons, d'édition est de toujours, utiliser le plus beau du concert, le moment du concert, pour enregistrer. En ce moment, on peut plus se permettre de passer 6 jours à enregistrer, c'est fini. Parce que les ventes qu'on a des disques, c'est une dixième de ce qu'on avait il y a 20 ans. Donc il faut toujours prendre de la musique sous les vifs, et pour ça il faut bien répéter et organiser les concerts de manière que les choses puissent se passer dans une bonne acoustique. Et c'est ça qu'on a fait. Tous ces projets sont pratiquement live.
Alors vous parliez d'il y a 20 ans, Jordi Savall. Il y a une vingtaine d'années, vous avez créé cette maison de disques, ce label, Aliavox, ce qui vous permet d'avoir une totale liberté. D'ailleurs, il y a aussi des disques qui ne sont pas des disques de Jordi Savall.
Ben,
on en écoutera un tout à l'heure.
Bien sûr. Je pense que, si vous voulez, il y a 20 ans, plus de 20 ans, c'était un moment où j'avais fait déjà plus presque une centaine de disques, d'abord Astray, après Ovidis. Et c'était un moment bizarre. On n'arrivait pas à faire des projets. On n'arrivait même pas à programmer. Donc je me suis senti très mal à l'aise, parce que dans notre métier, il faut bien s'organiser avec 2-3 années à l'avance pour bien résoudre. Et c'est comme ça que je me suis senti. J'ai fait des démarches pour voir avec des grandes maisons éditoriales de l'époque, EMI, etc. Et tout le monde voulait, ah oui, on peut faire. J'ai présenté plusieurs projets très intéressants. Ah oui, c'est très bien tout ça, mais d'abord on va faire un disque de Marin Marais. Voilà, on sentait tout de suite que ce qui les intéressait, c'est de gagner de l'argent.
Ouais.
Est normal, une maison commerciale, le but principal, c'est de faire de l'argent. C'est pour ça qu'on a fait Aliavox, une autre voix. Un peu pour paraphraser la voix de son maître, non, ça c'est la voix de l'artiste.
Ah oui, un clin d'œil.
La voix de l'artiste, c'est-à-dire l'artiste qui dit « qu'est-ce que j'aime ?» et faire partager ce qu'on aime. On est là de si ça va marcher ou pas. Il y a une passion. J'ai fait des disques avec des compositeurs qui sont presque pas connus, Andrew Lowes, des compositeurs anonymes. Ils ont bien marché. Mais donc, il faut simplement avoir cette liberté pour s'organiser et prendre des risques.
Prendre des risques, oser et être libre. Il est libre, Jordi Savall, libre d'enregistrer Le Messie de Handel cette saison. La version endelienne, d'Hélène le divin enfant, pourrait-on dire. For us, a child is born, extrait du Messie de Handel, la Capella Real de Catalogne, le concert des nations dirigé par notre invité ce matin, Jordi Savall. Là, c'est le tout dernier disque de cette autre voix d'Alia Vox, le Messie de Handel, qui était ici enregistré à Paris. À Versailles?
À Versailles, on l'a fait à Versailles et à la Philharmonie en décembre 2017.
Et donc, il sort maintenant au disque. Pourquoi d'ailleurs ces disques sont souvent des enregistrements de concerts, vous disiez, mais de concerts à Paris et à Versailles, pas en Espagne, en Catalogne ou ailleurs?
Bon, on en fait aussi. J'ai fait la Symphonie des Mozart, j'ai enregistré en Catalogne. Et l'intégrale des Symphonies de Beethoven, je les enregistre aussi dans une collégiate à Cardona, qui est une très belle acoustique. Ça dépend, c'est du contexte. Il faut enregistrer au moment où on fait le concert le plus intéressant dans la meilleure acoustique. Et la Chapelle Royale de Versailles, c'est une acoustique splendide pour ce type de musique. Et c'est un lieu qui n'est pas excessivement grand, donc ça permet une clarté, une présence des instruments, des voix et quand même un volume d'espace suffisant.
Retour à Handel. Il y avait, il y a un certain temps maintenant, les Water Music. Comment vous avez approché cet oratorio de Handel, qui est l'un des plus populaires, l'un des plus joués, qui doit être joué dans le monde entier des centaines de fois au mois de décembre? Qu'est-ce qui vous a intéressé de tisser comme fil, de tirer?
Et, écoutez, ça, c'est une, ce qui m'intéresse quand je travaille un projet, c'est de voir en quel moment de la vie ça se passe et pourquoi ça, ça arrive. Et j'étais très intéressé de voir que quelques mois, quelques temps avant qu'on décide de composer l'oratorio, Handel a vraiment doit arrêter de faire des opéras parce que c'est un désastre. Il est surmené, il est épuisé.
Il est malade.
Il est malade. Il a une attaque de paralysie. Il est au plus bas de sa carrière. Tout ça, rien ne marche pas. Comme un préserve, ça ne marche pas. Tout. Et donc, il va être. Il décide d'aller à Aix-les-Bains, à Aix-la-Chapelle, à faire une cure. Et là, il fait trois fois ce qu'il est normalement obligé, et tout à coup, il est guéri. Mais d'une manière, on l'entend déjà jouer à l'orgue, et il reprend une vie. Et c'est en ce moment-là qu'il décide de faire quelque chose de différent. Et je pense, il dit à un moment, j'ai vu le ciel, j'ai vu Dieu. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de montrer que cette œuvre, c'est pas une composition normale, c'est quelque chose qui est attaché à un désir de revivre de nouveau, d'être en contact avec cette lumière. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est une œuvre qui porte la lumière. Et toute la manière que j'ai abordé cet oratorio, c'est ce désir de lumière, d'espoir, de foi. Dans une renaissance, dans une sorte de récupération à la fois physique et aussi spirituelle. Et si on approfondit ça, c'est tout le message de Messie, c'est tout le message de qui nous apporte Jésus dans un monde pourri, dans un monde, c'est le message de simplicité, d'approche, de vérité, non? Et je pense que c'est pas une approche musicologique. Aussi, j'ai fait attention à toutes les questions d'articulation, de rythme, de liberté, de phrasé, à trouver les chanteurs qui, mais c'est surtout une façon de vivre la musique de dedans. Et de la vivre ensemble avec le chanteur et l'orchestre. On te dit non. Mais ça doit avoir un rythme, ça doit danser, ça doit chanter, ça doit respirer, ça doit, et tout ça doit être au service de cette joie de célébrer une des moments les plus fondamentaux de la tradition chrétienne.
Vous pensez, Jordi Savall, que on est animé, qu'on dirige le Messie de Handel, par exemple, de façon différente quand on est habité par la foi? C'est ce que disait, me semble-t-il, Gustave Léonard quand il dirigeait, par exemple, ses Passions de Bach.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que même, parce que moi-même, j'étais baptisé, comme on était obligatoire en Espagne, j'ai perdu la foi dans cet monde organisé avec des religions qui tous pensent qu'avoir la vérité absolue. J'ai perdu la foi dans ça. Mais je crois dans la vie spirituelle, je crois dans son dimension, et je crois surtout dans le message que chacun de nous doit porter. Je pense qu'on est tous responsables de ce qui se passe dans le monde. Et ce qui se passe, en fait, c'est parce que nous ne prenons pas chacun de nous nos responsabilités. Et cette message de la musique, c'est de nous élever de toutes ces misères. On a besoin de la musique, justement, plus les choses vont mal, plus on a besoin de la musique pour se ressourcer et pour retrouver l'espoir, je pense.
Jordi Savall, la foi en la musique, à foi en l'homme et à foi en Vivaldi. Là aussi, c'est une nouveauté d'Alia Vox, un extrait de Judita Triomphans, Matrona Inimica, Antonio Vivaldi, avec la voix, d'ailleurs c'est un point commun entre le Messie de Handel et ce Vivaldi, cet oratorio, la belle voix de la Britannique Rachel Redmond, le Concert des Nations dirigé par notre invité ce matin, Jordi Savall. Vous êtes fidèle à vos chanteuses et à vos chanteurs?
Quand je trouve des chanteurs avec lesquels on trouve une belle complicité et sont des belles voix, je suis très, très fidèle. Surtout que, par exemple, cette chanteuse, je l'ai connue dans une sélection qu'on a fait pour notre travail d'académie. Donc, quelquefois, des chanteurs comme ça, on les a connus en faisant un travail de chorale. Et après, on repère quand il y a quelqu'un qui a une personnalité, et ça fait plaisir de pouvoir lui donner une opportunité. J'aime beaucoup les jeunes voix parce que ça apporte une fraîcheur et aussi une spontanéité toujours qui est très belle aussi.
Alors ici, ce Vivaldi, ce Judita Triomphans, c'est comme le Messie, un oratorio, mais il y a quelque chose de beaucoup plus opératique, comme on dit, c'est presque un opéra biblique.
C'est une opéra qui, en plus, a une volonté. C'était composé pour célébrer la victoire des Vénitiens contre les forces turques. Et c'était un moment aussi où on avait besoin de remonter le moral en Vénice. Ils étaient un peu déprimés avec toutes ces guerres. Et je pense que cet oratorio, c'était une belle manière de célébrer cette victoire. Et Vivaldi a utilisé toutes les forces de magnifiques équipes qu'il y avait dans l'hôpital de la Pietà avec toutes ces jeunes filles qui étaient des chanteuses merveilleuses, mais aussi elles pouvaient jouer la viole d'amour, la viole de gambe, la flûte, le chalumeau, toutes sortes d'instruments. C'est pour ça que cet oratorio est un des oratorios les plus riches. Bon, c'est le plus grand oratorio de Vivaldi conservé, mais c'est le plus riche parce qu'il a un instrumentarium et une façon de jouer avec les couleurs. Vous avez l'air avec le chalumeau qui est une à pure merveille d'une modernité, d'une richesse, d'un chant vraiment fantastique, opératique, mais en même temps toujours avec une très intense spiritualité quand même. Et je pense toujours à cette parallèle entre Vivaldi, Mozart, ces grands compositeurs qui finissent dans la misère, qui finissent mal parce qu'ils sont pas dans l'engrenage de pouvoir. Vivaldi comme Mozart, ils n'étaient pas accepté comme compositeur d'opéra. Il avait pas les capacités. Il y avait Hasse qui était le grand. Il a dû partir d'Italie. Il est allé à Vienne pour chercher des nouvelles opportunités. Il est mort dans ces circonstances atroces.
À Vienne, oui.
Et ça, ça m'enrage de voir comme l'histoire de Mozart aussi qui a quelques mois avant sa mort, il était jugé pour payer ses dettes. Il était puni était ruiné complètement. Et 6 semaines plus tard, il était mort. Je pense que on oublie aujourd'hui dans quelles conditions ces grands compositeurs ont dû lutter pour pouvoir créer ces merveilles.
C'est quelque chose qui vous anime, vous soucie toujours quand vous travaillez une œuvre aussi d'avoir cette compréhension-là. Il y a se plonger dans la partition, mais aussi le
contexte. Pour moi, c'est
essentiel,
c'est indissociable. Je pense que la différence entre notre métier comme musicien qui travaille les parties historiques, c'est d'avoir une approche historique, c'est-à-dire de faire la recherche. Qu'est-ce que c'était la vie? Comment elle vivait? Mais aussi comprendre quelles sont les conditions stylistiques, qu'est-ce que était la technique de l'époque, qu'est-ce que c'est la manière d'orner, la manière de vivre la musique. Et tout ça, ça nous permet une approche souvent très différente de celle qu'on a aujourd'hui si on regarde seulement la partie musicale en elle-même.
Alors parfois, on ne sait pas qui est le compositeur ou la compositrice d'ailleurs.
Moi j'ai une théorie, je suis convaincu que la plupart des compositions anonymes qu'il y a de Moyen-Âge, de Renaissance et même, c'était des femmes. C'était des femmes très nobles quelquefois, de positions, ben, qui pouvaient pas donner le nom, parce que c'était pas bien vu qu'une femme fasse de compositeur ou qui était même trouvée quelque chose de vulgaire, n'est-ce pas? Donc la seule explication, parce qu'un homme qui compose ils ne renoncent pas à qui ils soient. Tandis que les femmes devaient quand même garder une certaine... Il y a que quelques femmes compositeurs, comme la comtesse de Dia, la Béatrice de Dia, qui était une femme troubadour, qui a eu le courage de dire... Mais c'était à une époque où les femmes avaient le pouvoir de dire, de chanter une chanson, je suis avec mon amant nu et je l'aime. Et c'était des choses qu'aujourd'hui, qui étaient en 1200. Et après... Même en Italie, les femmes qui étaient compositrices et qui étaient considérées presque comme des femmes de la vie, parce que c'était un métier d'artiste, de chanteur, était associé à des femmes légères.
Et au Pérou, peut-être que au Pérou aussi, ce sont des compositrices.
On ne sait pas. Ça c'est différent parce qu'au Pérou, dans cette musique que vous voulez vous référer, c'est une quatre extraordinaires. C'est la seule fois qu'on a une source historique de la musique qui était faite par les gens des villages, par les gens des villes, et les mélanges de mestizos, de criollos, c'est-à-dire le mélange entre les descendants des Indiens, des esclaves, et les mélanges avec les colons espagnols. Et là, il y a une musicologue qui a été chargée par un évêque, de faire dénoter toutes les musiques qui étaient chantées et jouées à cette époque-là. Et ça donne un codex extraordinaire avec des musiques qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, parce que les sources qu'on a aujourd'hui, ce sont du côté colonial, pas du côté indien.
Une fête péruvienne, Bailar Cantando, c'est un coffret absolument merveilleux qui est sorti l'année dernière. Et le matin, Jordi Savall, ça fait du bien. Dire que c'est fait exprès, mais non. Alors, c'est un chant de Noël, ça tombe bien. Oui. Extrait de ce Fiesta Mestiza en el Pérou, cette fête métisse au Pérou, un bal chanté Bailar Cantando, édité l'année dernière par Alia Vox, et toujours avec Hesperion 21, la Capella Real de Catalunya. Comment Vous trouvez ces musiques, vous avez toute une équipe avec vous de chercheurs
J'ai surtout, oui, j'ai surtout 50 années de travail. Avant que j'ai commencé à faire le premier disque de ce type, j'avais déjà passé 10 années en train de voyager dans les bibliothèques, de ramasser des microfilms. J'ai encore beaucoup de microfilms et des musiques que j'ai pas encore eu le temps d'étudier. Mais j'ai aussi eu des contacts avec des musicologues dans chaque pays, et donc c'est un travail d'équipe en la fin.
Ce travail-là, il nourrit aussi votre travail qu'on évoquait tout à l'heure sur Handel, sur Vivaldi?
Absolument. Je pense que c'est qu'on arrive à faire comme expérience musicale et le résumé de tout ce que vous avez vécu dans la vie. Rien n'est indissociable. Tout est associé à la sensibilité, la manière. C'est pour ça que depuis mon début professionnel, j'étais convaincu que pour un musicien classique, c'est aussi très important d'avoir un contact avec les musiques dites populaires. Parce que tout ce qui est fait dans le monde classique est inspiré de la musique populaire. La musique populaire, la musique du peuple, c'est la musique qui nourrit tout le reste. Même Beethoven, même Mozart. Et je pense que ça c'est quelque chose que j'ai compris en certaine manière très tôt, que toutes ces musiques qu'on dit anonymes, les chants séfarades, les chansons populaires, les musiques celtiques, les musiques... Ce sont des musiques des gens qui avaient besoin de cette musique pour survivre. Les musiques des esclaves, tous ces gens qui ont vécu des drames, des expulsions, des génocides. Quelle musique vous pouvez écouter plus douce, plus apaisante que la musique arménienne d'un peuple qui a souffert une persécution terrible? Plus on souffre, plus on a besoin de musiques belles qui vous guérit. Et je pense que c'est ça que je trouve fascinant d'aborder ces musiques, parce qu'elles nous parlent de quelque chose de profondément humain et qui sert de base à toute l'évolution de la musique, en fait.
Jordi Savall, il y a des musiciens qui souffrent. Ce sont des musiciens réfugiés qui ont parfois quitté leur pays en guerre, qui sont venus en France. Vous avez créé... il y a quelques années, ce très beau projet, Orpheus 21, composé de musiciens qui jouent encore. Il en est où, ce projet, aujourd'hui?
Ce projet, aujourd'hui, il est en phase de être renouvelé, parce qu'on a eu pendant 2 ans une subvention de l'Union européenne. Maintenant, on cherche de nouvelles sources de financement pour pouvoir continuer les activités. Mais il existe, dans la mesure qu'il y a une trentaine de musiciens qui sont en train de travailler et avec lesquels on est en contact pour préparer des projets pour les années prochaines.
Ça dépend de l'Union européenne, de la nouvelle présidence.
C'est un projet qui a besoin de support institutionnel. On peut pas.
Et vous êtes entendu?
Écoutez, on fait des demandes. Il y a eu certaines aides de fondations privées. On a eu l'aide d'Orange, de la fondation Ariane de Rothschild. Mais c'est pas facile. Toujours, il faut vraiment dépenser beaucoup de temps pour aller présenter le dossier. Penser au moins à présenter un projet pour Europa Creativa, pour l'Union Européenne, pour l'année prochaine. J'ai de l'espoir parce que c'est un très beau projet et c'est vraiment utile pour que ces musiciens puissent se débrouiller dans la vie et puissent faire de leur métier une source de vie aussi, de dignité.
Jordi Savall, ces musiciens immigrés ou réfugiés, là aujourd'hui, ils sont où en France, un peu partout?
Il y en a en France, il y en a en Espagne, il y en a en Allemagne, il y en a en Belgique, il y en a partout, et ils sont en train de travailler. Ils sont en train de faire des masterclass, de faire travailler les jeunes. Mais tout ça demande une structure financière aussi. C'est ça qu'on essaye de créer, de développer. Maintenant, ils sont une association en France. Et à partir de là, on est en train de structurer ça pour que ça trouve une façon indépendante de fonctionner.
Partout en Europe, Jordi Savall, voici un musicien, peut-être le premier compositeur européen. le début de l'ouverture de Coriolan, Beethoven, par Jordi Savall, notre invité ce matin, le concert des nations. Mais il y a plus de 20 ans, en 1997, c'était l'un des derniers disques avant que Alia Vox ne naisse.
94, oui. J'ai pu enregistrer ça à l'époque, j'ai fait une tournée. Et j'avais pas l'intention d'enregistrer Beethoven. On avait un projet de faire les symphonies d'Arriaga qui étaient combinées. Mais ça avait très bien marché la tournée avec ces musiques. On a enregistré l'héroïque dans une seule nuit. Entre 8h du soir et 8h du matin.
Alors 25 ans après, votre vision des symphonies de ce Coriolan, enfin du Beethoven, a totalement changé ou pas?
Non.
Là, quand vous vous entendez?
Non, ça n'a pas changé. J'ai développé peut-être plus de ressources, plus de contrastes, mais la conception reste la même. J'ai fait beaucoup d'années. Il faut pas oublier qu'avant que je connaisse la viole de gambe, j'ai joué les sonates de Beethoven avec le violoncelle, et pour moi, Beethoven était le grand compositeur. Et je pense que on porte ça d'une manière, quand on découvre Beethoven, on se rend compte de quel point cet compositeur a voulu toucher les gens, pas les élites, pas les princes, pas les cardinaux. C'est quelqu'un qui a pensé la musique comme un moyen d'expression vraiment pour porter les hommes à un niveau de spiritualité et d'humanité aussi. C'est le premier compositeur, comme vous avez dit, européen, vraiment dans le sens philosophique aussi, parce qu'il est allemand, mais il est dans la culture autrichienne, il s'inspire de la Révolution française. Et plus que jamais, ces idéaux de liberté, égalité, fraternité, sont aujourd'hui plus nécessaires que jamais. Parce que si le monde va comme il va, c'est parce qu'on oublie ces idéaux. En fait, liberté, ça veut dire prendre la responsabilité de la vie. Égalité, ça veut dire avoir les mêmes opportunités. Fraternité, ça veut dire penser aux autres. Et je pense que tout ça, ce sont des idéaux qui sont reflétés dans leur musique et nous touchent aujourd'hui comme peut-être aucune autre musique.
Jordi Savall, ce n'est donc pas vers Beethoven que vous allez, mais que vous revenez avec cette Académie 250. En quelques mots, rapidement, c'est quoi ce grand projet Beethoven?
C'est un projet dans lequel je réunis 30 de mes meilleurs musiciens, que je complète avec une vingtaine de jeunes musiciens sélectionnés dans tout le monde. On a des Européens, on a des Sud-Américains, on a des Japonais, des Américains. Et on fait pour chaque programme, on a fait tous les 9 symphonies, on a fait 1, 2, 4, 3, 5, l'année prochaine on fait 6, 7, 8 et 9. Mais pour chaque concert, on travaille une semaine, 6 heures par jour, un mois après encore une semaine, et après on commence les concerts. Donc on prend le temps de profondir dans toutes les questions essentielles de cette musique, dans les travails de l'archer, l'articulation, le phrasé, la dynamique, tous les contenus spirituels aussi, et tous les messages que ces musiques nous apportent. Et ça, c'est une question, si on a le temps, on peut sortir les merveilles qui sont de cette musique et créer cette médiation, comme disait Beethoven, entre l'essence et l'esprit. Et je pense que c'est ça, c'est cette idée, l'essence c'est qu'on perçoit, l'esprit c'est qu'on est comme être supérieur. Et c'est la même idée de Voltaire, dans laquelle quand il disait que sans l'essence il n'y a pas de mémoire, et sans mémoire il n'y a pas d'esprit. Et la musique est l'art par excellence de la mémoire, parce que la musique passe toujours dans l'instant, et ce qui reste, c'est le souvenir de cet instant. Et ce souvenir ne sera fort que si on a toute l'émotion, toute la beauté et toute la force spirituelle présente.
Le souvenir de Beethoven, ce sera les disques qui paraîtront dans quelques mois. Le 2 juin à la Philharmonie de Paris, les 6e et 7e symphonies, donc si j'ai bien suivi, le 3e volet de cette académie.
Exactement.
On aurait pu évoquer aussi Bach, cette passion selon Saint-Marc qui vient de sortir. Bach, la passion selon Saint-Jean, ce sera le 3 avril à Versailles à la Chapelle Royale, le 10 avril à la Philharmonie de Paris. Et puis ce soir, vous êtes à Lamballe, dans les Côtes d'Armor. Vous allez voir, c'est très joli Lamballe, avec la viole celtique du côté de la Bretagne. Merci infiniment Jordi Savall d'être d'être venu ce matin sur France Musique.
Un plaisir.
On se quitte avec le tout dernier disque, le Messie. Ah oui, c'est la fin, l'Alléluia, le Messie de Handel, carrément, à presque 9h sur France Musique. Demain, notre invité sera le ténor Cyril Dubois. C'est Samuel Razzanou qui était à la technique, Salomé Coq, Charlotte Landru-Chandès, Margot Muller ont préparé cette émission, David Travailleur l'a réalisé. La réponse à notre jeu, c'était une trompette qu'on n'entend pas dans la 40e symphonie de Mozart. Vous confirmez, il n'y a pas de trompette dans la 40e symphonie de Mozart. Jordi Savall, bravo à nos gagnants. À demain, très bonne journée sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.